Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode d'octobre 2021 de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Ok, ben, bienvenue, hein, bienvenue à tous, bonjour, bonjour à tous hein, d'ailleurs. On va faire commencer par un tout petit tour de table. Donc aux commandes aujourd'hui, c'est Noskill hein, qui va tenter de se démerder avec la technique ce soir. Autour de la table, on a donc Kirou.
Salut, salut.
On a aussi Greg.
Hello.
Et notre Dim.
Salut.
Alors aujourd'hui, on vogue un petit peu sur l'actualité, on a essayé d'avoir un thème quand même de saison, hein. Donc on va vous parler Sable, Dune, et de Dune d'ailleurs, hein.
Ouais.
De Dune, le fameux film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et comme on n'a pas fait forcément de grosses préparations chronologiques de déroulé de ce podcast, on va commencer juste par un tour de table des kiffs. Alors je vais faire dans l'autre sens, hein. Donc Dim, c'est quoi tes kiffs du moment ?
Alors, en ce moment, je suis plutôt deck building. Avant d'arriver là pour le podcast, j'ai ramené une boîte Magic pour de kit de fabrication. Je vais le montrer. Je sais pas si on va le voir. Le kit de construction de deck Magic. J'avais acheté quelques decks pour jouer le midi avec les collègues, pour jouer aussi avec mes enfants. Et surtout, et je pratique aussi l'autre deck building que tout le monde connaît, Pokémon. Alors, ça paraît un peu ouf, mais j'ai testé, c'est vachement bien. Et je me suis retrouvé à jouer à Pokémon avec mes gamins en achetant une boîte de base qui est le kit d'arène.
C'est marrant que tu appelles ça du deck building. Pour moi, c'est pas un deck building, ça, c'est du jeu de cartes à collectionner.
Ouais, ben.
C'est de la pompe à fric.
Ouais, mais tu deck build quand même. Tu vois, tu construis ton deck quand même.
Ouais, ouais, d'accord, ok.
Tu vois, donc, pour moi, ça reste un deck building. C'est un JCC, effectivement, un jeu de cartes à collectionner, mais ouais, c'est un jeu de cartes à collectionner qui est pas pareil qu'un Star Realms que j'ai déjà testé. Mais en ce moment, je suis plutôt sur les jeux de cartes et sur les figurines imprimées Etsy pour le côté figurine.
D'accord, ouais. Ok. Destiné à un jeu en particulier ?
Destiné à Forbidden Psalm, du coup, qu'on a commencé à pratiquer à la Forge.
Ok, Dak. Merci, Dim. Greg, c'est quoi tes kiffs du moment ?
Moi, j'en ai qu'un seul depuis un bon 3-4 semaines. J'ai le nez dans le guidon avec le Hammer Time, avec l'équipe logistique et préparation.
Le Hammer Time, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah bah, c'est la convention organisée par la Forge Ludique.
Ah oui, je connais.
Annuelle. Enfin, en tout cas, on a réussi à la faire annuelle. Voilà. Donc, l'édition 2021 se prépare. Ça sera le 23-24 octobre à la salle du gymnase.
Et nombreux.
Voilà, on vous donne rendez-vous. Pour tester pas mal de jeux, voir de la très belle table, et puis profiter aussi des tombola, des animations. Il y aura tout comme toujours le parcours enfant, donc et puis l'animation peinture qui aura un peu évolué, mais ça, on vous réserve la surprise. Venez sur place, on déclinera en deux aspects, une version entre guillemets qui s'adresse aux experts sur les ateliers thématisés, et puis sur un atelier open où là, ça sera plutôt pour l'initiation. Donc quelque chose d'un petit peu plus abouti et plus poussé sur ce qu'on propose au public, on s'est adapté par rapport aux années précédentes. Ce que je peux déjà annoncer, c'est que au niveau démo, ben on est complet. On va présenter à peu près 40 tables de démos.
Alors c'est des démos juste des gars qui vont jouer devant nous et puis on va juste baver sur les figurines.
Alors non, on a l'axe principal reste le même, on l'a renforcé puisque cette année on a priorisé, on a eu plus de demandes que de possibilités d'accueil. Bon voilà, après il y aura peut-être des espaces qui se libéreront au gré des désistements, mais on a donné la priorité aux tables dites ouvertes, c'est-à-dire où le public peut s'asseoir et tester les jeux. Alors après ça reste de l'initiative de chaque démonstrateur. Certains seront en table dite fermée parce que bon voilà, ils sont sur des tables qui représentent un effort de modisme tel qu'on n'est plus sur de la démo dite participative, mais il y a un juste équilibrage qui doit être à peu près 70% des tables seront ouvertes à la démo et 30% qui seront entre guillemets des tables statiques. Après, il y a toujours le Hammer Prize, c'est toujours la possibilité pour le public d'élire la plus belle table et la meilleure démo. Ça reste quand même une compétition. Le Hammer, c'est une compétition de la meilleure table et de la meilleure démo. Et je pense que d'année en année, c'est un peu comme la goutte d'eau, hein, on la fait tomber au milieu du lac, et puis il y a une onde qui se répand comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas mal de Belges qui me sollicitent pour venir présenter des tables, donc je pense que l'événement gagne en force, voilà. Donc
okay,
c'est mon kiff.
Alors, tu peux rappeler les dates, s'il te plaît ?
Donc 23-24 octobre, salle du gymnase, place Sébastopol, on est ouvert au public de 10h à 19h sur les deux jours. Et bah la news du moment, c'est qu'on fera de la Nosteke, donc la bière qui est la meilleure du monde.
Ça, c'est la vraie nouvelle, ça.
Ça, c'est la grosse nouvelle d'aujourd'hui, enfin d'avant-hier. Il y a de la bière pression, donc c'est l'honneur oblige. Hein.
Fraîche.
Ouais, si on veut accueillir correctement, fraîche, ouais. Donc voilà, donc venez profiter de tout ça. L'orientation, ça reste du jeu de plateau avec figurines. Il n'y a pas que ça, on retrouvera pas mal de jeux qui sont en développement, notamment des Kickstarter qui sont en phase d'aboutir ou qui sont en phase alpha, c'est-à-dire que vous pourrez rencontrer directement leurs développeurs. On retrouvera notre triangle de tête, voire peut-être quatuor, je ne sais pas s'ils seront à 4, mais en tout cas sur Arakan. Et j'espère que toute l'équipe sera là, vraiment au grand complet, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Et je vais l'annoncer, parce qu'ils m'ont pas fait de news, mais je vais les prendre en otage. Du dimanche, on fera un petit tournoi Arakan Wars sur place.
Oh, de l'exclu.
Donc voilà, donc ça sera le premier tournoi mondial Arakan Wars au Hammer Time. Ils me devaient bien ça, je les ai un petit peu poussés, ils m'ont dit « ouais, on sait pas trop ». Donc voilà, je l'annonce à leur place, il y aura un tournoi Arakan Wars, même si les mecs sont 6, je veux que ça se fasse chez nous, parce que voilà, on a vu toute l'évolution de ce projet.
C'est vrai qu'ils sont là depuis le début, en fait, voilà, depuis le premier Hammer Time, on les a vus.
Ils ont pris le pari de venir nous voir sur une convention, ils ont fait la route les mecs, ils étaient ultra motivés, on a vu l'évolution de tous leurs projets, de leur environnement narratif, au niveau musique, enfin, les mecs, c'est des putains d'artistes, ils sont bien installés dans leur pompe, c'est, voilà, pour moi, c'est une belle troupe de bardes qui fait voyager dès qu'ils vous vendent leur jeu, et puis, l'air de rien, il n'y a pas que du fluff sur leur game, il est assez poussé, pour l'avoir testé sur 2-3 parties en off, et l'avoir testé contre les concepteurs, bon, voilà, il y a du répondant, donc jeu de cartes, mais...
Du coup, un nouveau jeu de cartes à découvrir.
Ouais, il y aura d'autres Kickstarter qui seront en phase de développement, alors je vous invite à venir. Ouais, je vais être encore trop long.
Ouais, 23 et 24 octobre 2021, du coup, hein, de 10h à 19h, à place Sébastopol, salle du gymnase.
C'est ça, exactement. Bah voilà, kiff du moment, je pense que vous l'avez bien senti.
Ouais, un peu, apparemment. Ouais. Bon, désolé, je tousse un peu, il paraît que c'est la solférino-pharyngite, un truc dangereux. Du coup, Kirou, c'est quoi tes kiffs à toi ?
Moi, mon kiff du moment, c'est plutôt dormir quand je peux et changer des couches.
Ah ouais.
Non,
je connaissais pas ce jeu-là.
Plus sérieusement, je suis néo-papa, donc j'ai plus trop le temps de jouer. J'arrive à trouver un peu des petits créneaux pour peindre entre deux.
C'est niveau. Hein.
Donc,
une petite dédicace à Zélie.
Une petite dédicace à Zélie. Et puis, elle me laisse quand même un petit peu de temps pour peindre. Donc,
bon, ça va.
Ça, c'est bien.
Ok, bon, comme tout le monde le demande, moi mes kiffs en ce moment, du coup c'est aussi un jeu de cartes à collectionner, hein. J'ai kiffé Seven Fallen, donc qui est en fait un jeu de cartes Made in France, en plus éco-responsable, c'est-à-dire qu'on n'a pas des boosters dégueulasses en plastique, c'est du papier, voire même en fait ils font des box écologiques où tu t'as pas l'emballage, c'est 300
beau,
cartes
c'est
et tu gagnes un booster gratuit, donc c'est une petite équipe, hein, je pense qu'ils sont 5 du côté de Lyon, et ça sort un petit peu des habitudes de Magic, hein, donc les Magiqueux ont un peu de mal à s'y mettre, parce que voilà, c'est pas le même jeu en fait, tout simplement. Les illustrations sont sympas, et le jeu est bien foutu pour un petit jeu assez jeune, qui a 2 ans je crois.
Et la qualité des cartes du coup ?
Ouais, elle déchire sa mère.
C'est vraiment...
ouais, elles sont belles, ouais. Alors il y a des trucs rigolos, hein, parce que comme c'est un petit peu amateur, il y a eu des histoires de... un stagiaire, il s'est trompé dans la répartition des cartes rares dans les boosters, il a pris la pile des très rares, il les a mis à la place des Unko, par exemple. Mais tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Non, ouais, franchement, je vous ramènerai les cartes, elles sont sympas.
Ouais.
Mon deuxième kiff du moment, c'est un projet que j'ai commencé avec Greg la semaine dernière, hein, c'est de construire une table en 3D, un petit peu à l'arrache. On dit, allez les gars, ils font un tournoi à côté, nous on s'installe et on fait une forteresse, hein, de environ 1m80 de large, c'est ça à peu près, ouais, 3 plaques de 60-60, 4 plaques de 60-60, donc une table d'1m20 sur 1m20 avec des gros murs et tout ça. Bon, on montrera des photos un peu plus tard. Ok, Dak, bon, c'est fini pour le kiff, donc là maintenant ils sont... Qui est-ce qui va passer en premier ? Bah, ça va être Dim, je pense. Hein. Allez, Dim, c'est toi le premier. Et on va entrer dans...
La dimension.
Faut pas que je me trompe dans... Non, c'est bon.
Bienvenue. Alors, comme on l'a dit juste avant, le thème de ce soir, c'est Dune. Hein, j'espère que les gens l'ont vu, ont été voir le film ou vont aller le voir. C'est, en tout cas, moi, j'ai été le voir comme une petite groupie qui mouillait sa culotte. Disons
Peggy
que
16.
Peggy 16. Peggy 18.
18
même. Ouais, c'est 18. Ouais, pardon, c'est mais vrai. Du coup... Dune, en fait, c'est pour ça aussi, je pense que tous les geeks ont mouillé leur culotte, c'est que c'est un univers qui est très très ludo, qui a des atomes crochus avec le ludique et le geek, malgré que ce soit un roman qui a été écrit il y a un petit moment déjà. Donc il y a eu plusieurs adaptations de films, on l'a vu, mais outre ça, en termes de jeux, on a quand même eu pas mal d'adaptations jeux vidéo, notamment le Dune 1 auquel j'ai joué sur Amiga 500 en particulier, et le père de tous les RTS qui est Dune 2, la bataille pour Arrakis. Ça résonne encore dans ma tête. Et donc en parallèle un peu à l'époque où Dune 2 est sorti, on a eu un jeu de plateau Dune créé par les éditions Descartes à l'époque. Qui était un jeu de conquête, gestion, etc., un peu un 4X. Moi, j'y ai pas joué. Greg a pas joué.
C'était une adaptation. C'était en fait la version de Descartes, de souvenir. C'était une adaptation, je crois, si je dis pas de bêtises.
Alors, voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, moi, je vais essayer de rentrer donc, dans la dimension Dune autour du jeu. Et plus particulièrement, aujourd'hui, je vais vous parler de Dune Imperium. Alors, actuellement, sur le marché... Il y a plusieurs jeux Dune. On a deux jeux qui sont édités par Gale Force 9. Un qui est la... Alors, en fait, c'est deux rééditions du jeu de Descartes de 1992. Et qui sont en fait... Le premier de Gale Force 9 l'a sorti avant que le film sorte, donc sans les images du film. Et ils en ont sorti tout de suite un, qui est exactement le copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait, mais avec les images du film. Voilà. Dune Imperium, en revanche, lui, c'était un jeu qui n'a rien à voir. Je vais y venir après. Et actuellement, on a aussi le JDR Dune qui a été édité. Je pense que ça n'existait pas avant.
Non, en effet. Enfin, il y avait des adaptations.
Il y avait des adaptations homemade, mais
un peu libre, quoi.
Voilà.
Mais,
ouais. Et là, bon,
un GURPS, un truc dans ce genre-là.
Ouais, voilà, il devait avoir des trucs dans comme les ça. Sables. Mais là, ils ont sorti le jeu, ils ont profité de la sortie du film, et on pourrait s'attendre à un truc un peu licence, etc., donc un peu, voilà, mais pas du tout. Alors, si vous voulez, sur YouTube, vous pouvez aller voir, déjà, il y a une partie de jeu de rôle Dune, animée par je ne sais plus qui, mais avec Joueur du Grenier, un odieux connard, et un autre gars. Donc, je vais la réécouter, mais en tout cas, le système de jeu est hyper intéressant, parce qu'ils intègrent du narratif dans le système de règles. Pour Dune jeu de rôle. Donc je vais en venir du coup à Dune Imperium et le présenter donc dans ma dimension, puisque j'y ai joué, on a déjà bien pratiqué à la forge. Et donc c'est un jeu de Paul Denen, qui est auteur aussi de Clank. Clank, c'est un autre jeu, je vais pas rentrer dans le détail, j'ai jamais joué.
Pour son moteur de jeu.
Voilà, qui est assez reconnu. C'est un deck building du coup. C'est un deck building aussi. Et donc l'éditeur, c'est Lucky Duck Game, qui, entre autres, a fait Destinies, qui est un jeu d'aventure en 15 mm, et Chronicle of Crimes.
Ah oui, d'accord, ok, ceux qui ont fait
voilà,
ça aussi.
C'est Lucky Duck Games. Donc là, pour le coup, Dune Imperium nous veut montrer la boîte. Si vous voulez voir le box, la tronche de la box, pour pas... Vous voyez à peu près ce que c'est. Il y avait des pages dedans. Donc Dune Imperium, en fait, c'est un hybride entre un placement d'ouvriers et un deck building. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Le but final, en fait, dans Dune Imperium, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Donc une salade de points de victoire, somme toute assez classique pour un jeu de plateau. Il y a trois ressources majeures dans le jeu qui sont l'épice, comme dans l'univers de Dune, le Solari qui est le pognon et l'eau, hein, qui sont voilà, très raccord pour le coup avec le jeu. Et il y a une, on va dire, une autre ressource un peu qui pointe le bout de son nez, qui est les troupes de combat. Donc en gros, en quoi c'est un hybride, c'est que un tour de jeu va se dérouler en plusieurs phases. Une phase de justement placement d'ouvriers et une phase d'achat de cartes, puis une phase de combat. Voilà comment ça se passe. Donc en gros, le sel du jeu, c'est vraiment d'aller poser son ouvrier pour aller faire chier l'autre, voir ce que les autres vont faire, etc., etc., et de pouvoir contrer, mais en même temps, de gagner des ressources pour après aller acheter des cartes, etc., etc. Donc il y a vraiment c'est un jeu d'équilibriste. Entre toutes les ressources, entre toutes les intrigues, le placement, etc., il faut vraiment être équilibré dans son jeu. On peut pas tout... bien souvent, dans certains jeux de stratégie, de plateau, on peut se dire, je vais jouer full agressif, l'armée, on y va, et puis je vais essayer d'acheter toutes les améliorations pour être un super balèze. Bon, là, c'est pas le cas. Faut essayer d'équilibrer un peu partout. Donc, voilà. Le jeu... en gros, ça s'adapte assez bien pour des gens qui sont pas très coutumiers des jeux un peu complexes. Okay. On peut prendre des amis qui ont pratiqué quelques petits jeux déjà et les mettre sur le jeu. Je dirais que une personne qui a joué à Seven Wonders, par exemple, peut très bien jouer à Dune Imperium.
C'est le prérequis, ça, pour jouer à Dune Imperium. Tu penses que c'est le même niveau ou
C'est un petit peu au-dessus.
C'est un peu au-dessus.
Parce qu'il y a la notion de placement d'ouvrier et le combo avec les deux, mais quand même, dans Seven Wonders... il y a le draft de cartes qui fait un peu office de « je vais gêner l'autre », puisqu'on draft les cartes. Mmh. Et il y a un petit peu de placement dans
combien
le sens...
Combien de joueurs, d'ailleurs ?
C'est de 1 à 4 joueurs.
1 à 4 joueurs. Pourquoi 1 à 4 ? Tu peux jouer solo ?
Tu peux jouer solo, donc j'allais y venir, tu fais bien d'en parler. Donc j'ai pratiqué le jeu vraiment de long en large, donc je l'ai pratiqué aussi en solo.
C'est une boîte carrée, du coup.
De
long en large, c'est pareil.
Ah oui, d'accord.
T'as bien fait de la préciser, celle-là, parce que...
Le solo, en fait, c'est un peu anecdotique pour moi. Je trouve qu'il est pas... Il est très difficile, c'est très complexe, parce qu'en fait, on a un deck de cartes d'action pour l'IA qui va être généré automatiquement, et bien souvent, c'est très punitif. C'est-à-dire que... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut y jouer pour comprendre, mais moi, je trouve que le mode solo est bien trop punitif, et c'est très complexe de s'imbriquer et d'arriver parce que en gros il y a toujours dans le jeu on a deux ouvriers à la base, on peut en avoir un troisième, et l'IA quand on joue seul va avoir un troisième ouvrier à un moment du jeu, hein. Au cinquième tour il a un troisième ouvrier, donc si t'es pas toi dans le move aussi tu te fais avoir quoi.
Mais du coup c'est plutôt un jeu qui a été adapté pour jouer tout seul plutôt que créé pour jouer tout seul.
Je pense qu'aujourd'hui avec le Covid il y a énormément de producteurs de jeux qui adaptent les jeux en mode solo.
Ouais.
Pour dire, j'ai un mode solo, vous voyez, vous pouvez l'acheter pour jouer tout seul. Après, c'était sympa, hein, j'ai joué quelques parties tout seul, c'est sympa, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est quand même à 4. Donc, dans le jeu, dans l'histoire du jeu, vous incarnez un membre de l'univers de Dune, qui est pas forcément Paul Atreides ou un Harkonnen ou le Duc Leto, ils sont dedans. Mais il y a aussi d'autres maisons, les richesses qui existent dans l'histoire du jeu, dans les livres en tout cas. Je le tiens de GG qui connaît très bien l'univers. Et chaque donc personnage a un pouvoir spécial qui va déclencher avec une carte, avec la carte chevalière, et un pouvoir constant qu'il peut toujours faire. Voilà. Donc après, selon le personnage, ça fait certaines choses plus ou moins bien, et on oriente plus ou moins le jeu. La phase, pour moi, ce que je reproche au jeu, enfin les plus, c'est le côté vraiment facile de prise en main. On est très vite dans le move, on est très vite à réfléchir à ses actions, à voir les petites stratégies. En revanche, ce qui est complexe, c'est la phase de deck building. La phase de deck building, le problème, c'est que c'est une bonne idée d'avoir fait un hybride, mais très vite, on se retrouve avec un deck énorme parce qu'on va aller acheter des cartes, mais on a très peu de mécaniques pour aller se défausser de cartes. En fait.
Ouais.
Donc finalement, on va se retrouver avec un gros deck, on a plein de trucs super, mais ça se noie dans le truc. Alors peut-être que moi, stratégiquement, je suis pas le meilleur placé pour le faire.
Mais tu dis qu'il n'y a pas pensant de choses pour virer les cartes.
Pour moi, il n'y a pas assez de mécanique de défausse de cartes. Voilà. Et bien
sûr. Il n'y a pas des cachets que tu n'as pas vu. Le recto des cartes, peut-être.
Non, c'est pas caché comme ça. Après, ce qui est bien, c'est les cartes intrigues. Hein. Il y a deux types de cartes. Il y a des toutes petites cartes et des grandes cartes en fait qui représentent des personnages, des actions dans le monde de Dune et dans le film, et les petites cartes intrigues qui vont se déclencher à trois moments, pendant les combats, pendant le jeu ou à la fin de la partie, quand on dit ah bah t'as 10 points, bah je gagne un point de plus. Voilà, bon, ça c'est le petit truc pour retourner la situation, et ça c'est bien sympa. Et le deuxième, la phase combat est assez anecdotique. Et le gros reproche que tous les gens avec qui j'ai joué ont fait, et qui sont connaisseurs de l'univers de Dune, c'est qu'il n'y a pas de rapport avec l'univers de Dune. À part le facing des cartes, etc.
D'accord, ok. Et puis le nom des ressources, quoi.
Le nom des ressources, voilà. On avait un bel emballage Dune, mais ça aurait pu s'appeler guerre stellaire dans le désert, quoi. C'est pareil. À tel point que, par exemple, je me suis dit comment je vais illustrer ça, mais par exemple, si vous jouez le Baron Harkonnen, dans le jeu, vous pouvez très bien être allié avec les Fremen et gagner en étant allié avec les Fremen. Ce qui est un peu contre nature, c'est contre nature, c'est contre nature un petit peu par rapport à l'univers du jeu, quoi. Mais
tu bon, veux modifier la prophétie. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça. Bon,
il, alors. Pour le Bene Gesserit. Bon, voilà. Après, c'est des what if, mais.
C'est des what if, mais après. La mécanique, à chaque fois, par rapport au facing de la carte et à ce que ça raconte, il y a une carte, par exemple, qui s'appelle Kwisatz Haderach, qui représente bien ce que c'est le Kwisatz Haderach. Ça veut dire, tu prends un meeple, tu le mets où tu veux, quoi qu'il arrive, même s'il y a déjà un meeple en place, parce qu'on peut pas se mettre là où un meeple de quelqu'un d'autre est, et ben, avec la carte Kwisatz Haderach, tu te mets où tu veux. Voilà. Ouais. Ça fait partie. Et je trouve que c'est assez raccord avec ce que c'est le Kwisatz Haderach, enfin, ce que ça raconte dans l'univers du jeu. Et pareillement, les troupes Sardaukar, ça va amener de la force à la fin pour les combats. Donc pareil, la phase combat, elle est hyper stratégique. Il peut y avoir des retournements de situation qui sont assez fun. Il y a ce côté très fun de « Ah, je te mets un truc au dernier moment, tu l'as pas vu, et crac, je te retourne la situation. »
Tu peux jouer l'Empereur, d'ailleurs, dans cette version-là ?
Alors, non.
D'accord.
Je peux pas jouer Padishah Shaddam.
L'objectif reste quoi ? De cumuler un maximum d'épices ?
Un maximum de points de victoire.
Gagner des points.
D'accord, c'est une salade de points.
C'est une salade de points. D'accord. En gros, le plateau de jeu se présente...
T'as pas de conquête, rien du tout.
En fait. Alors, non. En fait, tu as les différentes factions qui sont les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde spatiale et... l'Empereur. Et après, le Landsdrad, qui est un truc à part. En fait, dans ces quatre trucs que j'ai cités avant, tu vas cumuler des points et tu vas avoir de l'influence chez eux. Ça va te faire gagner des petits bonus, etc. Et les batailles, en fait, ça se situe sur un plateau qui est central, où tu vas te placer dans les villes de Arrakis, et c'est là où le ver peut passer potentiellement, et tu vas ramasser de l'épice. Mais après, les combats, en fait, c'est une zone complètement autre, où tu vas aller placer des cubes de troupes, et qui te... En gros, à chaque tour, on retourne une phase de conflit et on sait ce que ça va être le conflit. On va se battre pour tel truc, une escarmouche, machin. Parfois pour un élément du plateau de jeu, la cité d'Arakin, etc. Et ça va te donner, il y a trois gâteaux en fait à gagner pour le combat. Voilà, il y a trois récompenses. Ça peut être des points de victoire, des ressources, des trucs comme ça. Et donc à chaque tour, tu vois à peu près est-ce que je vais me battre ou pas pour ce gâteau-là en fait. Ouais. Et tu vois à peu près comment t'es placé. Tu peux aller acheter des troupes, c'est très difficile. Ça reste quand même très difficile d'aller mettre des troupes. Mais il y a des cartes qui te disent ben, je rajoute plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 à ma force militaire. Donc tu peux très bien avoir pas beaucoup de troupes. Et puis venir en dernier instant faire paf, je te mets 3 cartes intrigue et je te poutre d'un coup. Quoi. Et je suis le vainqueur. Ça m'est arrivé sur la dernière partie plusieurs fois. J'ai placé des cartes, joué le Baron Harkonnen et j'ai retourné les parties parce qu'il tire beaucoup de cartes intrigue. Donc voilà, pour clôturer, pour 49,50€, c'est le prix chez Philibert, ou chez Tilgame, notre partenaire. C'est exactement le même prix, il l'a en boutique. On a un bon jeu avec une mécanique plutôt facile à comprendre. Ça va pas vous transporter sur Arrakis, c'est sûr. Mais bon, vous pouvez jouer avec tout le monde, avec des potes qui seraient pas hyper familiers. Des jeux un peu complexes, etc. C'est un bon pied à l'étrier pour après monter encore sur du 4X. Voilà.
D'accord, donc c'est un bon jeu, mais il n'y a pas assez de goût de sable et d'épices. Ouais. Quoi.
Ça n'a pas assez le goût de l'épice.
T'aurais pas les yeux bleus à la fin de la
partie. Non, voilà, c'est ça. Ça craquait pas sous la dent, c'est un peu le reproche. Malgré toute la beauté, le jeu était plutôt de bonne facture, les cartes sont jolies.
Il est sorti quand, du coup, celui-là ?
Alors, il est sorti cette année.
Ok, d'accord. Donc c'est sorti, Dune Imperium de chez Legendary et puis Dire Wolf.
Ouais. Alors Legendary c'est le film, hein, c'est parce qu'ils ont les droits du film. Ah, mais sinon c'est Dire Wolf qui édite le jeu.
C'est un jeu de Paul
Denen. Paul Denen qui donc comme je disais, le créateur de Clan.
Merci, voilà. Merci Dim pour ce voyage dans ta dimension.
Et donc petite annonce, le mois prochain, ça sera certainement dans la dimension. On parlera plus de peinture.
Ok, d'accord. Merci Dim. Alors maintenant, on va passer à notre second intervenant. L'inspecteur Kirou.
L'inspecteur Kirou. Salut les amis, content de vous retrouver sur le podcast de Forge FM pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Alors, comme l'a dit Dim, mais comme vous le savez tous, le phénomène Dune est sorti au cinéma il y a peu, une mise à l'écran du roman de Frank Herbert. Cette adaptation m'a poussé à me questionner sur les adaptations de livres, séries ou films en jeux de plateau ou de figurines. Alors, est-ce une bonne idée, une réussite ou simplement une pompe à fric ? Tout fanboy ou fangirl a déjà craqué pour un jeu juste parce que celui-ci portait le nom ou le logo d'une franchise qu'il aime. Sans se poser la question de savoir si la mécanique est bonne, si le matos est de qualité, si le jeu en vaut la chandelle, comme on disait dans les années 80. Alors, est-ce un choix marketing des éditeurs que de jouer sur la renommée d'un univers, ou un vrai choix éditorial d'adapter un grand nom de la littérature ou de la pop culture en réfléchissant sur le fond du sujet ? Si on se penche un peu sur le sujet, on remarque que les adaptations sont nombreuses, surtout concernant les grands noms de la science-fiction ou du fantastique. On ne compte plus les jeux de plateau ou les jeux de figurines dans l'univers de Harry Potter, de Walking Dead ou encore de Game of Thrones, pour ne citer que. Les franchises sont vues, revues, archivues, les jeux se vendent souvent bien, font parfois des bides, mais les éditeurs continuent d'utiliser, voire d'user de ces thèmes. Games Workshop a par exemple ressorti une mouture du Seigneur des Anneaux après sa première version datant d'une quinzaine d'années et un passage par la licence du Hobbit. On peut donc se demander si les créateurs parviennent à se renouveler sur les mécaniques de jeu et s'ils intègrent réellement l'univers dans leur démarche. Ou alors, l'univers est-il utilisé uniquement comme décor apparence et non comme un support du jeu ? David nous raconte... J'ai récemment acheté un jeu dans l'univers de Dune parce que j'aime beaucoup l'ambiance des livres. Mais je suis un peu déçu. Pas que le jeu soit mauvais en soi, au contraire il est plutôt pas mal. Mais on ne ressent aucune immersion quand on y joue. On a juste l'impression d'être dans un jeu de gestion. On ne plonge pas dans l'univers. Dommage. Donc ça rejoint ce que Dim vous avait dit tout à l'heure.
Je ne connais pas ce David.
Parfois encore, les licences sont utilisées à des fins purement marketing. Juste comme publicité, comme image d'appel. Ainsi, on voit régulièrement fleurir des Monopoly Ghostbusters, des Risk Game of Thrones, des Timeline Star Wars, destinés à un public de fans ou au grand public. Ces adaptations en sont-elles alors vraiment ? Où est-on en droit de on est en droit de se poser la question ? Juliette nous décrit. Personnellement, j'adore l'univers Star Wars, et c'est vrai que parfois, j'achète des jeux juste parce qu'ils sont étiquetés Star Wars, et qui finalement ne sortent jamais parce qu'ils sont moisis. Mais comme il y a Leia sur la boîte, j'achète. On peut ensuite se demander si la prédominance de certains univers ne nuira pas sur le long terme à notre paysage ludique. Ne finirons-nous pas par tourner en rond en s'enfermant dans des standards, dans une seule expérience de jeu ? N'a-t-on pas déjà trop de jeux sous licence Marvel ou DC Comics ? Est-il encore utile de sortir des jeux Star Wars alors qu'on en dispose déjà de dizaines ? X-Wing, Star Wars Légion, Star Wars Armada, Star Wars JCE, Star Wars Destiny...
Impérial Assault,
arrive-t-on encore à se renouveler et ces jeux offrent-ils une réelle adaptation de l'univers ? Julien nous explique. Je pense que je suis devenu monomaniaque de l'univers DC Comics. Depuis que j'ai acheté Batman Gotham City Chronicles, je ne joue plus qu'à des jeux étiquetés DC. Et d'ailleurs, je ne sors plus sans ma cape et mon masque. Toi-même, tu sais. Néanmoins, dans la masse d'adaptations, certains jeux semblent parvenir à cocher toutes les cases. Immersion, bonne mécanique, graphisme, respect du lore. Encore faut-il réussir à les dénicher. lorsqu'on voit par exemple la masse de jeux dédiés à l'univers de Lovecraft et son mythe de Cthulhu. Mais la quête de la perle rare ne fait-elle pas elle-même partie du jeu et de ce qu'on aime dans notre hobby? Ou parfois, par hasard, le hasard fait bien les choses et l'on découvre un jeu sur lequel on n'aurait pas misé. Clara nous dit « On m'a offert le jeu de plateau Breaking Bad, et j'avoue que j'étais sceptique au début car les jeux adaptés ne sont pas ma tasse de thé. Mais au final c'est un bon jeu, tout y est et on s'amuse vraiment en retrouvant bien l'ambiance de la série. » En conclusion, qu'on ait pledgé l'intégrale de Conan, dénicher un exemplaire du plateau Disque Monde Ankh-Morpork, qu'on soit fan du SDA-JCE ou qu'on pratique occasionnellement Marvel Crisis Protocol, on pourra toujours se demander s'il n'est pas préférable d'avoir un jeu bien construit, bien réalisé, de bonne qualité, dans un univers nouveau, plutôt qu'une énième adaptation du Trône de Fer. Et vous, avez-vous déjà craqué pour un jeu adapté qui dort au fond d'une armoire parce qu'il est mauvais au final?
Je pense que oui.
Je sais pas, parce que moi justement j'ai Breaking Bad. Je ne l'ai pas testé encore. J'espère le tester, mais.
C'est vrai?
Bah, il est. Bon, en même temps, il a été vendu à 9€ à Noz. Donc, c'était un peu con de pas l'acheter, surtout quand t'es fan de la série. J'attends que Greg me rejoigne sur Breaking Bad pour le tester un de ces quatre. Parce qu'il est fan aussi de la série. En fait. Pour rebondir sur ce que dit Kirou, si on a un peu de temps. Je vais rebondir. C'est un côté. En fait, la licence a un côté plutôt rassurant, en fait. Enfin, en tout cas pour moi, tu sais que ça va fonctionner, en fait. En tout cas, moi, à la maison, avec les enfants,
quand tu vas fonctionner, tu vas pouvoir le filer à d'autres personnes. Enfin, essayer de jouer avec des personnes qui connaissent déjà le monde.
Tu vas le vendre à des gens qui sont pas... Enfin, quelqu'un qui joue pas au jeu. Je parle jeu, figurine, tout ce que tu veux. Tu lui montres un jeu Star Wars, il va jouer.
Ouais, s'il aime Star Wars.
S'il aime Star Wars, bien sûr. c'est vraiment la merde, mais j'aime bien Stargate. Ah merde. Non, j'aime bien Star Trek.
C'est comme Star Trek, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. En moins bien. Mais donc, du coup, tu vois, c'est en ça que le jeu de licence, mais parfois, effectivement... Je trouve que la licence est un prétexte à vendre de la merde.
Je pense que Monopoly Star Wars ou Monopoly Ghostbusters, ouais.
Il y a ça, mais rien que pour moi, Star Wars Légion, la première boîte, alors certes, était pas chère, mais les figurines sont très mauvaise qualité.
Ouais.
Oui, ils sont très mauvaise qualité, les figurines très de la boîte moulées, de base, elles sont super mal moulées, les Stormtroopers sont pas géniales. Toi, t'as peut-être trouvé ça correct, mais
Ouais, moi, je suis un peu tout terrain là-dessus.
Non, moi, j'étais pas déçu. J'étais content, ça coûte pas quoi.
Ouais.
Comparé à Games Workshop, ce que tu as dans une boîte, pour 90 balles, c'est un peu le prix de vente de la boîte de base de Star Wars Légion. T'es quand même content, il y a plein de tokens, bon voilà. Après, sur les jeux de rôle, je serais plus nuancé.
Ah oui?
Parce que.
Mais je tourne la phrase.
Ça ferme, moi je trouve que le problème, alors c'est bien. Tu vois, là, par exemple, je suis sur Alien, donc je trouve que c'est pas mal. Mais parce que déjà, mes joueurs sont en train de trépigner en me disant il est où le xénomorphe
là, ce qui est intéressant dans Alien, c'est que on découvre pas beaucoup de l'univers dans les films, en fait.
Non.
Là où Star Wars, depuis le temps que ça existe, t'as vite fait le tour. Il y a eu beaucoup de blabla autour, des comics, des romans.
Il y a trop de choses.
Sur Alien, il y a eu des comics, on les a pas encore, mais du coup, l'univers est quand même super libre.
C'est assez open.
Ouais. Donc, dans un JDR, je trouve que
je pense que les adaptations de licence sur des jeux de rôle, c'est plutôt souvent une bonne réussite.
En revanche, le background est déjà là.
C'est plutôt une bonne réussite. Pourquoi? Parce que tu vas pas boxer dans la même catégorie. Ce que tu veux, c'est te retrouver immergé. C'est quand même plutôt dépendant de l'environnement que du moteur. À l'inverse, un jeu de plateau, est-ce que je retrouve dans la matrice du moteur quelque chose qui fait le sel du cadre? C'est là que ça pêche.
Tu vois,
pourtant, le moteur, le mec, on sait que c'est un type qui sait fabriquer des moteurs de jeux de plateau. Derrière, tu sens quand même, tu l'as dit, ça sentait pas l'épice, quoi. Ça m'a embêté. Et la mécanique, j'aurais pu la plaquer sur autre chose.
Et c'est pas que moi, hein. Je veux dire, c'est tous les jeux.
Les retours,
c'est ça.
La majorité des retours.
David a dit la même chose.
Donc, pour moi, le vrai danger, il se situe pas trop sur du jeu de rôle.
Non, je suis d'accord.
J'en ai fait un paquet en fait, licence, je sais pas vraiment de...
C'est parce que j'ai pas été
mauvais exemple.
Assez
Par
clair.
Contre, en jeu de plateau à licence pour Rave,
ah oui,
bon, voilà, quoi, il y en a un paquet, hein. Des trucs à kiloplastique, avec un ouais. environnement graphique où les mecs te prennent le jeu vidéo puis te le reçus.
Je fais pas parler de marque en particulier, mais oui.
Ouais, non, mais bon, il y en a quand même un paquet. Donc derrière, tu te retrouves avec quelque chose d'extrêmement graphique. Tu fais une partie, et puis t'as, tu dis, ouais, putain, ouais, c'est fait chier, quoi. Ouais, j'ai pris zéro décision, on a acheté les dés, quoi. On était sur le 4-21. Ou alors, c'est le truc, les règles sont mal branlées, tu comprends c'est rien, ça. T'es tout
le temps... peut-être fait un bon dire, mais Zombicide, par exemple, c'est pas une licence, mais...
C'est pas une adaptation.
C'est pas une adaptation, Zombicide. Il y en a eu, hein.
Walking Dead, par contre,
si
tu vois.
Pas de bêtises. Non, il n'y a pas eu d'adaptation Zombicide sur un univers. Il y a eu des transpositions dans des cadres narratifs différents.
En fait, ils font des clins d'œil à beaucoup de films dans Zombicide.
Oui. Ouais, mais les règles restent les mêmes, en fait.
Mais bon, la règle est pas ouf. Non, mais c'était pour rebondir sur Kiloplastique. Par contre, Walking Dead.
Moi, je pensais plus à StarCraft, tu vois, clairement. Pour moi, le premier truc que je citerai, c'est StarCraft qui a été vendu comme étant un 4X. Franchement, c'est une daube intersidérale, quoi. Franchement, ça avait pas. Le pire, c'est que je l'ai acheté. J'étais vraiment, comme tu disais, en mode groupie. J'étais parti pour peindre les figurines en mode comme dans le jeu vidéo, avec des ombrages, des machins, faire des rayos. J'avais quatre potes avec qui jouer en LAN. On était en mode, ouais, super, en avant, on va retrouver le plaisir autour d'un jeu de plateau, et puis on va corrompre les mecs qui ont pas de PC. On va voilà quoi, on a fait une partie, je l'ai revendu le truc.
Il est pas dans la cave, mais il est revendu du coup.
Ça fait plus ou moins
écho avec la
les
place,
jeux.
En plus,
c'est un peu le même problème qu'on a sur les jeux vidéo, tu vois, les adaptations de jeux vidéo. Ouais. Les enfants des années 80-90, aujourd'hui, ils sont hyper réticents sur les jeux à licence parce que souvent, en tout cas, moi j'ai encore ce réflexe-là d'aller à reculons sur des licences en disant oh là là.
Ah oui, mais de toute façon. Même dans les jouets, en fait.
Oui, oui.
C'est ce qu'on a aussi. Hein. En général, tu prends un jouet avec une licence, t'auras une qualité de merde ou un prix plus cher par rapport à un jouet sans licence.
Ouais.
Donc je pense que sur le plateau, on a le même truc. Mais tu vois, du coup, ce que tu disais, enfin, ce que l'inspecteur Kirou disait, pardon, sur le fait d'avoir peur d'avoir trop de trucs à licence, je pense pas parce qu'en fait, une licence, ça coûte cher. Et du coup, il y aura toujours, je pense, des créateurs de jeux qui feront du sans licence et qui... Ouais, que ce soit moins cher et plus facile à mettre en place.
Ouais, mais après, la question, c'est est-ce que les joueurs vont pas...
Boycotter et...
Pas boycotter, mais se focus...
Sur les licences.
Bah, se dire, justement, comme tu disais, Dim, bah, c'est la sécurité, en fait.
Ouais.
Il y a une licence, c'est la sécurité, c'est je vais pouvoir jouer avec mes potes, je vais pas acheter un jeu un peu indé, parce que je vais devoir l'expliquer, je vais devoir présenter l'univers, etc.
Mais du coup, ça force les indés à faire des trucs de ouf.
On est d'accord, mais ça soulève quand même la question.
C'est vrai. Et c'est un peu... Enfin... Là où, pour rebondir sur le thème d'aujourd'hui, Dune, c'est un peu ce qu'a réussi à faire Villeneuve. Il a fait un truc un petit peu licence...
Donc on parle du film, là.
Ouais, mais je veux dire, tu vois, les Marvel, pour moi, oui. Ça a pourri beaucoup de trucs aujourd'hui parce qu'on a biberonné ce Marvel, que ce soit en jeu, etc. Hein, tu vois, il y a Marvel Crisis Protocol, etc. Et du coup, c'est devenu la licence... putain, mais tout le monde va dessus, alors que bon, moi, ça m'intéresse vraiment pas. Mm-hmm. Mais
moi je kiffe.
Après le jeu de figurines m'a intéressé, mais j'ai été vite rebuté par le prix, si tu veux. J'ai vu le prix, je
suis pas jusque-là.
Voilà, c'était trop quoi. Et les films sont, les scénarios sont pas ouf. C'est joli, c'est des films sympas, mais vite fait quoi. Quand t'as Disney+. Par contre, Dune, tu peux pas le voir ailleurs qu'au cinéma quoi. Enfin, tu vois. Bref.
Après, il y avait un attendu par rapport à ce type de film. Les licences Marvel, c'est des films popcorn.
C'est du blockbuster.
C'est du blockbuster. Vas te le manger en famille, peu importe.
Dune, t'as réussi à faire un truc un peu entre les deux. C'est un peu un blockbuster, mais.
Bon, mon gamin, il a détesté. Hein. C'est même pas la peine. Tu l'emmèneras pas voir ça. Ça le fait chier.
Ouais.
C'est pas la peine.
Dommage.
Hein. Il était allé voir ou non?
Ouais, il était voir avec ses potes. Ça le fait grave chier. Quoi. Donc, c'est pas la peine. Ça l'emmerde à 200%.
C'est quelque pas d'explosion.
Bah, le rythme. Après,
faut pas spoiler.
Je spoile pas. Je dis juste que le rythme, il est spécifique. Quand tu kiffes à mort le MCU, et que c'est ça que tu attends, ou que t'es un fanboy Star Wars, parce que globalement, rythme,
oui, c'est pareil.
Le rythme aujourd'hui de ce type de film,
bon, c'est là, un rythme d'épileptique.
Peut-être.
Mad Max aussi.
Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, il y a des attendus qui sont des aspects graphiques. T'en prends plein ta pipe parce que t'es devant un écran. Dune, t'en prends plein ta pipe, mais autrement. Il y a un côté immersif, donc bon.
Un peu plus posé.
Tu veux dire que c'est un film de vieux, en fait?
Non, c'est-à-dire que en fait, le spectateur doit passer de l'autre côté de l'écran. Alors que MCU, quand tu fais du MCU ou Star Wars, c'est l'écran qui te saute dessus. Ouais. Et c'est vraiment
très difficile. Je dirais qu'il m'agresse,
mais... Ouais, bah, toi, tu le vis comme ça, mais il y a des gens qui... Voilà, ouais, l'attendu, ça peut être ça.
Et du coup, ça s'applique aux jeux de plateau qui correspondent ou pas?
Je crois que ça t'agresse, un jeu de plateau MCU. Moi...
Je sais pas. Enfin, en tout cas, on parlait de films. Là, mais en tout cas, pour revenir à ton propos de l'adaptation... En tout cas, de l'inspecteur Kiro. En effet, ouais, y a des choses qui sont extrêmement mauvaises. D'autres, des licences sur lesquelles je n'aurais absolument pas voulu me positionner. Ouais. Mais vraiment pas, hein. Je voulais pas y aller. Et j'ai testé le jeu, j'ai trouvé ça génial.
C'est quel par exemple
le problème, c'est que personne pourra l'acheter. Le truc, il est en rupture. Ça s'appelle... Alors, tu vas me reprendre, hein, parce que mon anglais est dégueulasse. C'est Gears of War.
Gears of War.
Il est génial, ce jeu.
Gears of War.
Moi aussi, on a joué à deux. J'aurais pas misé sur ce truc, je me dis, t'as un jeu vidéo que tu as, en plus Gears of War, c'est pas le jeu vidéo que je préfère.
Ouais, c'est un jeu vidéo vraiment très, très musclé, testostérone, des gros flingues. Et franchement, le jeu ressemble un peu
un peu à Dark Souls dans l'idée. C'est aussi difficile que Dark Souls, et il faut bien réfléchir à ce que tu fais, quoi.
Donc si vous nous entendez, que vous avez kiffé ce jeu-là, que vous aimeriez bien le tester, dommage, il est indisponible.
Ouais, il s'arrache à des prix assez fous, d'ailleurs.
Dark Souls, pour le coup, c'est aussi une licence. Et le jeu,
il y a des belles figurines, un système de jeu vraiment bien foutu.
Monsieur Vladil, je crois. C'était Vladel Vladil, je crois, qui avait fait ça.
Aucune idée.
C'est aussi un mec qui sait faire des moteurs, quoi.
Ouais. Ça, c'est en général, je pense que le conseil qu'on peut donner par rapport à des trucs de licence, regardez l'auteur du jeu, et vous savez, et regardez ce qu'il a fait, et comme ça, vous allez avoir un peu une idée de la mécanique de jeu de plateau qui va être mis en place. Bon, après, évidemment, si vous êtes novice, c'est un peu compliqué, mais...
Ou alors, testez-le.
Oui, à la Forge Ludique.
Ou à Hammer Time. À la Forge Ludique, ou dans des bars à jeux. Ils ont donc
Moi, je pense que rien ne vaut le test maintenant.
Le test, c'est le mieux.
Parce que, il y a quand même beaucoup de reviewers qui se contentent d'ouvrir la boîte. Ouais. Ou qui ont tendance à te dire que c'est bien.
Oui.
Ouais.
Non, mais venez à la Forge Ludique.
C'est compliqué.
On a des adresses sur Lille pour tester les jeux.
Ludibrek.
Moi, je dirais les cafés jeux sont plutôt sympas.
Ouais.
Sous réserve qu'ils soient entre guillemets équipés pour ce type de jeu. Pour moi, la meilleure adresse sur Lille pour ce type de jeu, c'est Ludibrek, parce qu'il y a une bibliothèque experte. Voilà, donc il fait l'actualité, il s'équipe. On va dire la plupart des cafés et jeux, ils sont équipés jusqu'à Seven Wonders, voire Dominion, quoi. Ouais. Ce jeu-là, il est déjà au-dessus, comme l'a dit Dimitri, c'est le next step. Donc sur l'île, tu le trouveras à Ludibrek. Tu vois avec Laurent, lui, il fait c'est un dingue de fief, par exemple, qui est quand même un jeu assez lourd. Donc je pense que c'est une bonne adresse pour aller le tester. Après avoir peut-être chez Troll et Farfadet,
chez Troll aussi, hein, faut aller
chez Till Game,
Il fait tester, il a la place pour faire tester les jeux de plateau, il le fait régulièrement.
Tu passes, tu prends une date avec lui, il te dit tel joueur, tu reviens.
On déballe le jeu, on testera ensemble. C'est quand même bien
pour les et pour les 6-2, il y a l'instant ludique à Béthune qui fait la même chose aussi. Hein. OK,
donc
merci beaucoup
de possibilités.
Inspecteur Kirou pour cette nouvelle enquête. On va passer la main maintenant à notre économe en chef, Greg, qui va faire une petite chronique économique. J'ai repris l'accent du sud-ouest.
La chronique éco de Grégory.
Kaching.
Alors, c'est plus une météo qu'une chronique, en fait. C'est plus une météo,
météo. C'est pas mal, la météo aussi. Hein.
Voilà, donc une petite météo parce que cette météo, en fait, elle est sous le signe du sable et de la tempête. Pour rester dans la thématique de Dune. À la base, je voulais pas faire de chronique éco, mais je me suis tiens à la thématique dunesque, on va dire. Enfin, un air vert. Ouais, le ver de sable a tout dévoré. Le ver de sable au niveau du marché de l'occasion, il s'appelle le Brexit. Très clairement, ça a mis un énorme coup de frein dans entre guillemets l'exportation des figurines anglaises à bas prix vers notre territoire. Donc la plupart des plateformes de revente, elles se retrouvent un peu fermées. À ça s'additionnent les problématiques et les interrogations légitimes sur les potentiels frais de douane. Donc derrière, voilà, je vous avoue que pour vous éviter les mauvaises surprises, n'achetez pas un truc qui vaut plus de 100 livres, quoi. En général, vous allez prendre des frais. Donc ça, tout ça pour dire que ça a un impact sur les mon terrain de chasse principal, qui, comme vous le savez, est eBay. Donc, et l'impact, il est extrêmement fort, parce que l'impact, là, pour le coup, j'ai pu le mesurer. Parce que, vous le savez, je regarde régulièrement le nombre d'objets en vente sur ce type de plateforme et mis à disposition vers le territoire français. Parce que quand vous vendez sur eBay, vous définissez le territoire dans lequel vous acceptez de le vendre. Ça a considérablement fondu. Vraiment. C'est-à-dire que hier, on était à 175 000 objets pour Warhammer. Warhammer 40 000, Warhammer Battle, et puis les dérivés considérés comme tels, tout ce qui est utilisable dans ces jeux-là, donc globalement du Games Workshop, ces 175 000 objets, aujourd'hui, on les retrouve dans la sélection jeu de rôle. C'est-à-dire que vous avez, dans l'arborescence, vous montez d'un cran, et vous arrivez au même ratio. C'est-à-dire qu'en incorporant tous les bouquins, tous les jeux side, etc., tout ce qui tient aux jeux joués, jeux de plateau, jeux de rôle, vous arrivez au même nombre d'objets. Deuxième effet mécanique, c'est aussi le fait que cette raréfaction a entraîné une crainte de vendre à petit prix. C'est-à-dire que le jeu des enchères n'existe quasiment plus.
Alors, c'est moi, que de l'achat
direct. Exactement. Plus de l'achat immédiat.
Voilà. Alors ça s'explique par différents leviers. Alors, je suis pas un ultra économiste, mais il y a d'autres plateformes sur lesquelles les gens prennent l'habitude et ont le réflexe d'être en négociation directe, c'est-à-dire qu'ils mettent un prix fixe et puis ensuite ils passent à une négociation en sous-main par message privé. On pense notamment à Facebook. Ou Le Bon Coin. Donc, ce type de vente a l'air de rencontrer beaucoup plus et d'être beaucoup plus publicité. De surcroît, il est exempt de frais pour la plupart du temps. Ce qui n'est pas le cas d'eBay, voilà, donc qui répond à un protocole extrêmement rigide et de plus en plus rigide, puisque quand tu es vendeur sur eBay aujourd'hui, les droits ont changé. C'est plus uniquement PayPal, il faut que tu puisses enregistrer une carte bleue. Donc ça complexifie encore l'accès à la mise en vente sur eBay et tous ces éléments cumulés. Après, je ne sais pas lequel a été le majeur, fait que le nombre d'objets aujourd'hui sur la section, on va dire, jeux de figurines avec une vente aux enchères. Donc tu commences avec un prix quel qu'il soit, hein, ça, c'est pas forcément un euro, mais tu démarres avec un prix d'appel, et puis après tu acceptes les enchères, et descendu à 2500 objets. C'est-à-dire que 2500 objets aux enchères, c'est presque 10% de ce que je vous ai présenté il y a un an et demi.
Ah ouais, finalement c'est ouf.
Ah, en effet, ouais.
Voilà. C'est pour ça que je vous fais une météo un petit peu dans le cœur de la tempête parce que vraiment, il n'y a plus grand chose.
Donc, c'est la mort d'eBay en fait pour la vente de figurines.
Ce n'est pas la mort d'eBay, c'est la mort d'eBay sur notre petit continent. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand tu veux acheter sur eBay de la figurine, bah, tu l'achètes globalement des Français à des Belges en fait. Et parfois quelques Allemands, quand tu vas les regarder, quelques Espagnols, quand ils acceptent de faire de la vente internationale. Mais globalement, bah, ça tourne en rond. Donc le marché français, il est pas autosuffisant. Moi, j'ai acheté énormément en Angleterre et je vendais en France, par contre. Donc vendre en France, ça reste. Alors, tu te positionnes sur eBay en France, ça sera l'objet de la prochaine chronique. Tu as annoncé ta prochaine chronique. Je vais le faire dans ces conditions-là. Donc au cœur de la tempête, vendre sur eBay, est-ce que ça fonctionne encore? Ça sera la prochaine interrogation. Mais eBay n'est pas mort. Non, inspecteur Kyo, eBay n'est pas mort. La preuve en est, Squidmar, qui est une chaîne YouTube, un peintre, dernièrement a lancé une espèce de défi. Il s'est lancé un défi. Il a récupéré une figurine emblématique des années 90, Kelson de Rock en plomb, qui a été tirée à un certain nombre à un numéro limité, qui à l'époque était vendu à un prix d'américain. Moi, je pouvais m'acheter un ordinateur pour le prix. J'ai plus le prix exact, mais c'était en livres sterling. C'était un prix qui était énorme. La mallette était livrée avec un certificat d'authenticité à ton nom. Ouais, c'était une mallette qui était avec une serrure. La clé était spécifique. Donc, je sais plus comment ils ont imprimé. Le prix, c'était un prix d'américain. C'est une figurine qui est sortie en 96, 97, de souvenir, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas si vieux que ça. Ça a 25 ans, on va dire.
J'ai vu des news à ce propos. Ouais.
Alors, le truc a vraiment animé la toile. Globalement, tous les mecs qui sont un peu sur Facebook et autres ont vu l'info. La figurine est quand même partie à 35 000 dollars US.
Peinte.
Évidemment, peinte par Squidmar. Donc, il l'a montée. J'avoue que j'ai eu la figurine en main dans les années 90. J'ai eu un coffret en main, on m'a demandé de la monter et de la peindre. Je ne l'ai pas fait. Je vous le dis. Pourtant, je passe pas pour être un manche. Je ne l'ai pas fait. À l'époque, c'était quelque chose, je dis bien à l'époque, qui nécessitait un niveau de modélisme qui était extrêmement élevé.
Ouais, tout est en plomb et tout en
tout est en plomb. Alors, le problème, c'est que tout est en plomb. La figurine pèse 4 kilos. Si tu fais que coller, elle n'a aucune solidité.
Faut tout tiger.
que ben c'est des moules qui sont des moules qui ont ben voilà qui étaient des moules RT, c'était pas des moules HD, c'est-à-dire c'était pas des moules durs comme tout ce que faisait Games, donc tu avais une certaine souplesse dans le rendu de ce que tu pouvais avoir.
Ouais, genre, ouais.
C'est-à-dire que ce qui était carré pouvait partir un petit peu.
Je me souviens des figurines de l'époque, c'était compliqué hein, les véhicules à monter.
Donc ça demandait un niveau de modélisme quand même relativement assez élevé.
Sauf si tu faisais du Nurgle, mais sinon.
Ouais, voilà. Ben, tu sais que Nurgle ça vient de là hein, d'ailleurs. Hein.
Ouais,
clairement. C'est j'en ai ras le cul, je défonce le truc et puis je fais mon armée comme ça. Ça vient de là. Hein. Donc c'est bon, après c'est pas l'idée principale qui a amené toutes ces customisations, mais ça a contribué. Mais 30 000 euros. Donc Thunder Hawk 1997. Globalement, je pense que ça devait être 300 livres ou peut-être un peu plus sterling dans son coffret. Et là, bon ben voilà, on se retrouve avec ça. Après, il l'a monté, il l'a peint. Bon, voilà, service de peinture. Donc pour vous, si vous souhaitez voir cette figurine, il faudra prendre un petit billet. Mar, ouais. Il y a la vidéo de Squidmar, ça voilà. Mais si vous voulez la voir en live, elle est maintenant dans un magasin et qui se trouve à Melbourne, donc Australie. Il faudra faire un peu de route.
Allez,
je sais pas si
Squidmar l'a vendu à un mec en Australie. En fait.
Oui, enfin, c'est aux enchères, ouais, sur eBay. Ouais, donc voilà, donc eBay n'est pas mort.
Il fonctionne encore. Il a mis $1 pour commencer.
Ouais. faut regarder, mais je crois qu'il l'a, il l'a annoncé, je crois qu'il l'a fait. Hein. Il est suffisamment ballsy pour le faire.
Ouais, c'est possible.
Ouais. Donc ce qui était intéressant, c'est bon voilà, donc elle est là-bas et c'est ce qu'a dit le vendeur quand il l'a acheté. Il a dit qu'il a eu la conviction d'avoir acheté un morceau d'histoire.
Ouais, c'est un peu presque une œuvre d'art.
Je trouve ce commentaire extrêmement puissant parce que je me suis dit, ouais, quand même, 30 000 balles, quand même, les tarés, etc. Le mec, non, lui, il se dit, non, j'ai acheté un morceau d'histoire. Voilà, j'ai acheté un morceau d'histoire, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours, bon, au-delà du fait que le mec, ça va peut-être transcender à un moment, quoi, le fait de pas en avoir un, etc. Il dit, non, j'achète un morceau d'histoire, c'est une figurine qui est emblématique à un instant T, c'est moi qui devais l'avoir. Donc j'ai trouvé ça extrêmement fort. Donc non, eBay n'est pas mort, mais eBay, ben c'est pour les Américains, les Anglais. Voilà, c'est, ouais. Je pense que le terrain de chasse pour la France.
C'est plutôt Facebook et.
C'est plutôt Facebook.
Et voilà. Moins le Bon Coin parce que le Bon Coin.
Je vais terminer sur.
Vinted peut-être aussi. Alors, Vinted.
Vinted, il y a des frais.
Ouais, puis beaucoup trop cher.
Mais voilà. Ça, c'est vrai qu'ici, il y a Geek qui achète sur Vinted des jouets beaucoup. Bien pour ceux qui veulent faire du décor, acheter du jouet à pas cher en fait.
Ouais. Alors il reste des éléments hein, quand même intéressants hein, sur eBay. Je vais rapidement les nommer. Si vous avez du Games Workshop sous boîte, vous pouvez le vendre très facilement sur eBay parce que le marché, on va dire du prix fixe, existe encore. Il est bien présent. Compte tenu de la faible disponibilité des boîtes games, et surtout si vous êtes sur du made to order, vous allez réussir à le vendre correctement, même à un prix, on va dire, proche de celui de chez Games, enfin très très proche en tout cas. Donc vous allez vous faire enfler de 20% une fois que vous aurez réduit les frais et machin, mais en vendant au prix, vous allez réussir à vendre. Je parle pas d'un starter au ruc, hein, on parle de quelque chose qui est en dehors de ce que vous pouvez trouver facilement. Ensuite, il y a l'OOP, donc tout ce qui est out of production, qui intéresse les collectionneurs, mais qui a un prix incompressible. J'entends par là que vous n'allez pas réussir à en tirer du fric. Vous n'allez pas faire du pognon en vendant en France des figurines OOP. Alors, je vais tester. Je vous dirai, ça sera l'objet de la prochaine chronique, parce que j'ai 25 Space Marines des années 90 qui appartiennent à la Forge, qu'on a décidé de vendre pour financer notre atelier peinture. Donc, je vais les vendre sur eBay, je vais les foutre à 1 euro.
Le défi de faire 28 000 euros.
Non, ça c'est
un. Vous pouvez acheter un bout de l'histoire si vous voulez.
Franchement, on vous mettra le lien en commentaire. On vous mettra le lien des enchères en commentaire. Ouais. Et faire monter
donc, si vous cherchez les figurines, le pseudo à taper c'est Ours Azur. Donc sur eBay, ça sera vendu.
Ours Azur. Voilà. Notez-le.
Voilà. Donc Ours Azur, vous tapez ça et puis vous trouverez les figurines de la Forge. Donc et ensuite il y a les pièces, les bits et les figurines, on va dire isolées de gros packs. Ça reste quand même intéressant sur eBay à acheter. Vous cherchez spécifiquement le héros dans tel starter, etc. Ça reste ça sympa. Cher, voilà. Par contre ça coûte cher, mais c'est possible. C'est possible. Ça, c'est, donc ça reste.
J'ai jamais fait, mais.
Voilà. Et pour vendre, même chose. Vous pouvez vous aussi vous délester.
Dépioter, ouais.
Voilà. Et ça reste une bonne affaire. Et ça reste, on va dire, le privilège de eBay de faire de la pièce détachée. Et ensuite, dernière chose, ben voilà, je vous ai dit les prochaines ventes. Voilà, donc se faire du fric aujourd'hui, ben en vendant sa figurine.
Vendez des cartes Pokémon.
Ouais, c'est plus ça.
Alors, pour rebondir sur le dépiotage, j'ai vu un truc qui m'a fait halluciner aujourd'hui. Il y a des mecs qui vendent des emballages de boosters de cartes Pokémon.
Oui, j'avais fait les boîtes Games Workshop, moi.
Là, on est sur du haut niveau. Et on a aussi des boosters de cartes Pokémon qui ressemblent aux vrais, mais qui sont en défaut.
Alors ça, c'est très répandu.
Et c'est hyper répandu, et les mecs disent, bon, c'est pour les enfants, c'est bien, c'est non officiel. En fait, c'est de la copie. C'est de la copie qui est illégale. Hein. Bon, après,
c'est presque du dropshipping, parce que c'est beaucoup les marchés asiatiques qui font
ça. Oui, oui, c'est ça, c'est des cartes chinoises, mais en français, hein, attention, hein, les cartes sont en français. Mais bon, j'ai voulu acheter, compléter mes decks, étant débutant dans l'univers, c'était un peu...
Donc voilà, donc rendez-vous la prochaine fois pour vous faire le pitch. Là, on fera un petit retour vidéo, on essaiera de monter en gamme. Je vous ferai les retours, et puis vous aurez les images des figurines qui seront parties vendues. Et l'objectif sera de deviner le prix
à laquelle c'est parti. Ah oui, comme la dernière fois, c'était très bien
sûr. Ok, Dac, bah merci à tous. Voilà. Donc on va conclure du coup notre magnifique podcast d'octobre 2021. Donc merci beaucoup à
tous.
Et on a tenu le timing.
Ah, c'est beau, c'est beau.
Retour en force.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Salut.
Salut.